presque rien sur presque tout. Une émission de Patrick Ferlat.
Avec aujourd'hui...
Denise Gillian.
Denise Gillian, bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va bien, merci.
Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Nous prendrons des nouvelles aujourd'hui du réalisateur français Nils Tavernier. Son premier film de long métrage, Aurore, est sur les écrans. C'est un film à découvrir avec des yeux d'enfant. Et puis c'est Hugues Daillé qui vous apportera des nouvelles de Bruxelles.com vers -10. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Denise Gillian, vous êtes cinéaste, documentariste, l'auteur de 7 longs métrages. 2 d'entre eux sortent en DVD. Il s'agit des Bas-fonds qui relatent une aventure humaine extraordinaire et de Aux frontières de la mort, l'expérience de 4 personnes convaincues d'être passées par l'au-delà. Alors ce qu'apporte le DVD après la sortie publique d'un film ou sa projection à la télévision, votre point de vue tout à l'heure, mais revenons un peu en arrière. C'est à l'âge de 16 ans que vous avez, je crois, rencontré le cinéma et qui plus est très loin du pays qui vous a vu naître.
Alors en effet, à l'âge de 16 ans, j'ai quitté la Suisse pour le Mexique, où j'ai eu la chance de trouver du travail. C'était important pour moi d'y rester à ce moment-là. Je trouvais du travail comme mannequin, ce qui m'a permis de fréquenter les plateaux cinéma pour le tournage de publicité. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Quand sur les plateaux cinéma, j'ai vu les réalisateurs travailler, je me suis dit, mais c'est extraordinaire parce qu'ils écrivent, ils voyagent, ils dessinent, ils ont de la matière humaine dans les mains avec lesquelles ils peuvent raconter des histoires et ça m'a fait envie.
Alors, quitter la Suisse à l'âge de 16 ans, quitter sa famille pour le Mexique, ça n'est pas tout à fait à côté. C'est très jeune, non ?
Oui, on me fait souvent cette réflexion, mais je pense que c'était une bonne intuition que j'ai eue. Lausanne, dans les années 80, vivait les tumultes de Lausanne Bouge, centre autonome. Le divorce de mes parents m'avait affectée et j'avais besoin de changer d'air.
Comment ont-ils accueilli votre départ, précisément vos parents, votre père, votre mère ?
Je les ai mis devant le fait accompli, je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix à l'époque. Avec du recul, je pense qu'ils en sont aussi contents que moi, parce que ça a été quelque chose de déterminant dans ma vie. J'ai fait au Mexique des rencontres qui encore aujourd'hui influencent mon travail et m'ont inspirée. Et je pense par ailleurs que de voyager jeune et d'être confronté à des valeurs qui sont moins confortables que les valeurs qu'on peut rencontrer ici, c'est tout à fait positif.
Le choix du Mexique ?
C'est une histoire bizarre. On voulait avec une amie partir aux États-Unis, le fantasme de l'Amérique. Mais pour les États-Unis, il faut un visa, donc l'autorisation des parents. Donc on a choisi le pays le plus proche.
Mais vous auriez pu choisir notre pays en Europe, par exemple, l'Espagne, l'Italie, la Russie, que sais-je ?
Bon, je pense que quand même, il y avait le fantasme de l'Amérique. Hein, l'Amérique qui fait rêver, et puis partir le plus loin possible était aussi quelque chose d'important.
Alors vous arrivez au Mexique et vous êtes mannequin ? Vous faites du mannequinat ?
Alors, pas dans l'immédiat. Nous sommes arrivés au Mexique avec une amie dans le but d'y voyager. Nous avions travaillé ici pour gagner quelques sous. Donc j'ai pu voyager avec elle pendant 6 mois environ. Et il était hors de question de rentrer. Donc on s'est retrouvés dans Mexico City avec $50 en poche à se dire « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et je crois beaucoup qu'on fait des rencontres qui ne sont pas de l'ordre du hasard. Et là, quelqu'un dans le centre de Mexico m'arrête, une femme qui s'appelle Mathilde, et me dit « je cherche des visages européens, j'ai monté une agence de mannequins, en plus tu as les cheveux courts, enfin, ça m'intéresse beaucoup, est-ce que tu serais d'accord de venir à un casting ?» Puis moi, ce n'est pas du tout un milieu que je connaissais ou qui a priori m'intéressait. Mais j'ai dit, bah, pourquoi pas, top là. Et Mathilde est devenue une grande amie que je vois encore aujourd'hui. Et voilà, puis on a commencé à travailler ensemble.
Et le lien avec le cinéma alors, sur place ?
Alors ensuite, en travaillant comme mannequin devant les caméras, j'ai été amenée sur les plateaux de tournage, justement, pour des tournages de spots publicitaires. Et c'est là que j'ai découvert le monde du cinéma. Et j'ai voulu rentrer ensuite en Europe pour faire une école de cinéma, parce que se former au Mexique était difficile. Alors je suis rentrée en Europe et j'ai fait mon école de cinéma à Florence, en Italie.
Vous vous souvenez, Denise Gillian, des messages publicitaires que vous faisiez passer à l'époque ?
Ouais, je saurais pas vous sortir comme ça les slogans, mais ouais. Je me souviens notamment d'une publicité pour des robes de mariée sur laquelle ma mère était tombée un jour dans un hôtel alors qu'elle venait me rencontrer. Et ça a été le choc. Il y a ma fille en robe de mariée, comme ça à la télé, qu'est-ce que c'est ?
Alors à l'époque, j'ai lu quelque part, vous dessiniez, vous écriviez, vous aviez, dites-vous, un goût certain pour la liberté, un goût certain, qu'est-ce que cela signifie exactement ?
C'est difficile de vous répondre. Je me voyais pas du tout liée à un lieu, à un employeur, entravée dans mes mouvements ou dans mes réflexions. Donc, à l'époque, la liberté, c'était une liberté de mouvement et c'était une liberté d'indépendance, de pouvoir décider au jour le jour à quoi j'allais consacrer mon temps. C'était un peu idéaliste, mais c'est vrai qu'en rencontrant le cinéma, on se dit, mais c'est extraordinaire parce qu'il y a une vraie liberté, en tout cas dans les sujets qu'on choisit d'aborder, dans les pays dans lesquels on choisit de travailler. Et voilà, puis ça correspondait à quelque chose.
Au sein de votre famille, vous étiez privé de liberté ?
Pas du tout. Non, non, au contraire, non, j'ai grandi très libre. Non, je n'étais pas privée de liberté. Non.
Votre père, Pierre Gillian, qui fête, je crois, cette année, ses 80 ans, c'est ça ?
Oui, hein, c'est juste, ouais.
Est un chercheur très engagé, notamment en faveur des autres, des plus démunis, des gens exclus. Et vous l'êtes aussi, vous, à travers vos films. C'est-à-dire qu'il y a un lien, un rapport assez étroit. C'est lui qui vous a ouvert les yeux sur ces univers-là.
Oui, lui et ma mère aussi. Tous deux sont très engagés socialement. Moi, j'ai baigné dans des discussions de famille où il allait de soi de lutter contre l'injustice. Où c'est vrai que les discussions à table étaient toujours se situaient très à gauche et étaient très très engagées. Donc, je dirais que j'en suis constituée. Je n'ai pas choisi à un moment donné de faire comme eux, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le sens de l'injustice et l'envie d'être utile et d'améliorer un peu l'état du monde fait partie de moi profondément et je le leur dois, c'est certain.
Denise Gillian, quel est le bruit qui a marqué votre enfance ?
Alors le bruit des socolis en bois de mon père sur l'escalier de bois de notre maison. Nous vivions dans une ferme retapée avec un escalier de bois et mon père a toujours porté des socolis. Alors c'est le tic 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 des chaussures qui montent ou qui descendent.
Vous parliez tout à l'heure du divorce de vos parents, ça a été un moment difficile pour vous ?
Bon, c'est toujours terrible je crois de voir ses parents se séparer. Pour moi c'était très difficile, c'était le début de l'adolescence. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'était aussi la mouvance Lausanne bouge. Donc, j'arrivais de la campagne, je me suis retrouvée à Lausanne, dans un milieu, dans la rue, quoi, dans le milieu des punks, des skins, en pleine manifestation, avec une liberté de mouvement immense. Parce que c'était les années post-68, ça veut dire que moi j'ai été élevée dans une liberté importante. Et du coup, oui, c'était douloureux. Enfin, j'ai un peu perdu mes repères. Oui, c'était pas facile.
Votre père, qu'on a entendu souvent sur nos antennes, qui a fait partie aussi de ce comité Chacun pour tous, action de solidarité qui se poursuit, être utile, avoir le goût des autres, vous le partagez cela aussi ?
Oui, alors absolument, complètement. Par un biais tout à fait différent, parce que je ne pourrais pas travailler comme lui l'a fait sans m'immerger dans les milieux concernés. Ça veut dire que moi j'ai besoin d'être au corps à corps. Je ne peux pas faire un travail sur la prison sans entrer en prison, par exemple. Donc je suis beaucoup plus sensitive, peut-être.
Ce que vous avez fait avec votre premier film ?
Absolument. Mon père, c'est Ange Maudit, ouais, qui était le premier film personnel, où j'ai fait le portrait, enfin je comptais faire le portrait d'Angelo Donadoni, qui était un détenu condamné à perpétuité pour des braquages. Et puis au moment où j'étais en lien avec lui, il se trouve qu'il a rencontré sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis sa naissance quasiment. Donc là, le portrait du père est devenu en fait un portrait de la rencontre entre une jeune femme qui découvre que son père est un braqueur condamné à perpétuité derrière les barreaux.
Ce film qui est aussi, j'allais dire, un livre, parce qu'il y a le film et le livre, si je suis bien informé, ils vont ressortir bientôt.
Alors oui, on va le sortir sous forme de coffret, ouais, pour le Salon du Livre. coffret qui va réunir le film, les bonus du film, et puis le bouquin. Alors pour moi, c'est vraiment très très important, parce que les deux objets sont complémentaires et ont été conçus comme ça. Mais jusqu'à maintenant, le film a trouvé sa trajectoire, le livre aussi, de façon indépendante. Et là, on arrive enfin à les réunir. Donc
c'est une très bonne idée, parce que ce sont un film et un livre absolument magnifiques pour les avoir vus, les avoir lus, Denise Gillian. Alors, être utile, le goût des autres, les films documentaires de quelqu'un que vous connaissez, je veux dire, le nom ne vous est pas inconnu, de Nils Tavernier, 41 ans, ex-acteur, fils de Bertrand Tavernier, il en témoigne dans tous ses films, les films tournés en banlieue, dans le milieu de la drogue, qui dénonce notamment le trafic d'enfants esclaves en Afrique, c'est d'une trentaine de films documentaires au total. Alors Nils Tavernier passe à la fiction, avec un premier film de long métrage, Aurore, qui vient de sortir sur les écrans, c'est un film qui ne ressemble à rien qu'on puisse connaître, je veux dire, un film qui a des allures de contes de fées, un long métrage onirique autour de la danse, et qui traite tout à la fois de la liberté, du pouvoir et du désir d'être soi. C'est un film, j'insiste là-dessus, à voir vraiment avec des yeux d'enfant, et je vous le recommande. Écoutez Nils Tavernier vous dire ce que le cinéaste a recherché par le biais du cinéma.
Il était une fois un royaume dans lequel la danse était interdite depuis de longues années. Malgré cette interdiction, la princesse Aurore dansait sans cesse sous les yeux émerveillés de son petit frère Solal. Elle était la grâce incarnée.
Je pense que tous les films que j'ai faits, c'était aussi des films dont le moteur était l'envie de me rencontrer et l'envie de me mettre en danger. Aurore, c'est une nouvelle forme artistique, c'est une manière de me mettre en danger, c'est une manière de me tester sur des choses, c'est une manière de me tester. Moi j'avais peur par exemple de la guerre, donc il a fallu que j'aille voir la guerre et me confronter à la guerre. J'avais peur de la mort, il a fallu que je me confronte à la mort. J'avais peur des prisons, donc il a fallu que je me confronte à la prison. Moi j'ai envie d'aller vers mes peurs, j'ai l'impression que je me découvre en allant tester les endroits où j'ai une fragilité. Je déteste tout ce qui est acquis, je déteste tout ce qui est certitude, tout ça m'emmerde profondément. Donc voilà.
Alors avec Aurore, Nils Tavernier, quelle peur tentez-vous d'affronter avec le film ?
Là, je signe quelque chose qui est pour moi une nouvelle forme artistique. Quand vous dites à un chef d'écho, on va mettre des arbres dans la pièce, on va faire voler des gens... On va inventer des fées qui se transforment en oiseaux. On va faire en sorte que les gens puissent se réunir dans les nuages et s'aimer. Tout d'un coup, il faut y aller pour raconter ça. Moi, ça m'a pris 4 ans et demi pour oser dire que j'avais envie de faire un conte de fées complètement onirique, avec des grands bals et plein de chorégraphes différents. Donc oui, ça fait peur parce que je vais être regardé différemment. Dans le documentaire, ça m'a pris du temps, en tant que journaliste, d'accepter que je faisais des films qui étaient aussi des films sur moi. Et à la fois, je m'apercevais bien qu'on me classait en tant qu'auteur. Mais ça m'a pris vachement de temps. Quand je pense que si on voit 10 de mes films, on sait à peu près quel bonhomme je suis. Voilà. Et c'est au-delà du sujet. On sait bien qu'on filme un gamin qui est en train de crever de faim. Vous mettez deux journalistes ou deux cadreurs autour du gamin, du même gamin, et vous avez une image différente. Je crois de moins en moins à l'objectivité en presse, moi, de toute façon. Je pense qu'elle est de fait subjective, à moins qu'on fasse des petites brèves extrêmement rapides et qu'on retape les brèves de l'AFP. Mais sinon, des films de 50 minutes ou d'une heure et demie. Moi, j'ai eu la chance de faire des enquêtes au long cours. On a des films qui sont souvent très personnels. Et Aurore, c'est vrai que c'est un film extrêmement personnel. C'est un film totalement libre, Aurore. C'est un film qui n'est pas consensuel. C'est un film qui provient totalement de mon imaginaire. Et ça, c'est de se mettre en danger. C'est plus facile, et c'est un exercice auquel j'adorerais me confronter, ceci dit, mais c'est plus facile de prendre un scénario, d'avoir des producteurs qui te disent « Tiens, là, il va falloir que tu fasses ça, monte ta scène, t'as deux, trois acteurs qui sont déjà là. » Comme on voit, par exemple, en fiction télé. En fiction télé, vous avez des poules de mecs qui travaillent, qui réfléchissent sur savoir quelle est la part de Dimat qu'on va réussir à faire avec tel ou tel scénario. Aurore, c'est pas un film qui a été fait comme ça. Aurore, c'est un film totalement libre. Et ça, c'est une chance... absolument sublime que j'ai eu. Sublime. Je ne sais pas si je pourrais refaire un truc comme ça un jour dans ma vie, j'en sais rien. Je pense qu'Aurore, effectivement, est de manière sous-jacente, reflète les thèmes qui m'ont bouleversé depuis 25 ans ou 30 ans. C'est d'abord un film familial, mais c'est aussi sur différents niveaux. On peut dire qu'Aurore est un film sur quelle est la place de la femme dans la société. Qu'est-ce que c'est qu'une femme qui renonce à son amour, à sa passion, qui est donc la danse dans Aurore, pour accéder au pouvoir, pour aimer un homme? On a quand même plein de femmes dans le monde qui peuvent être concernées par ça. Qu'est-ce que c'est que la lâcheté d'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme fasciné par une femme qui, du coup, va pas du tout s'occuper de son pognon? Qu'est-ce que c'est que le mariage forcé à l'heure actuelle? C'est aussi le parcours d'une jeune fille qui va découvrir l'impact que son mouvement peut avoir sur un homme. Donc c'est le passage de l'adolescence à femme, ou d'enfance à adolescence, comme ça, qui ont des âges très 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 émouvants, très fragiles. Et voilà, c'est un film, c'est vrai, sur la beauté. C'est un film qui est sur la liberté, profondément. Qu'est-ce que c'est qu'un individu qui a envie d'aller vers ses rêves? Moi, je crois que les gens, quand ils font un boulot qu'ils aiment à peu près, qui couchent dans un climat d'amour et de partage, je pense que ça les rend heureux. Je pense que les gens qui n'ont pas cette chance-là sont malheureux. Et je pense que les gens qui sont malheureux ont tendance à devenir méchantes.
Comment sait-on que l'on est amoureuse?
On le sait, on le devine. On le subit aussi.
Souhaitez-vous me voir mourir de chagrin ou bien devenir foilier?
Maintenant que je connais tes desseins, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire échouer ton plan.
Si je fais un film sur des petits Maliens qui partent en Côte d'Ivoire et qui se font enrôler dans des systèmes d'esclavagisme atroces, le rapport de l'engagement, il est direct. Aurore, c'est un rapport d'engagement différent. Je pense que c'est un rapport d'engagement malgré tout citoyen, de faire quelque chose de totalement artistique, totalement onirique, de doux, de romantique, de faire une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, Aurore, c'est aussi une œuvre d'art placée dans une économie, je ne suis pas dingue. Mais je pense que c'est une forme de résistance. On sait bien que les Khmers Rouges, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont coupé la tête à tous les danseurs, 80% du corps de ballet. On sait bien que Hitler, quand il a pris le pouvoir, a essayé de faire main basse immédiatement sur l'opéra. On sait bien que toute forme de dictature ou de mouvement extrémiste, quelle qu'elle soit, de gauche, de droite, religieuse ou non, a essayé de prendre et d'enfermer les auteurs et les artistes. Et moi, je crois que quand on sort d'un joli spectacle de danse ou d'un joli film, on a moins envie de taper la gueule sur sa gonzesse ou de faire la guerre. Je crois ça vraiment. Mais ça m'a pris beaucoup de temps d'accepter ça. Parce que quand je fais un film sur la dope, Paris et banlieue, il y a une résonance directe sur... Moi, j'ai l'impression... Je suis un humaniste, moi, j'aime l'homme. Donc j'ai envie de l'aider. Quand je ne l'aide pas, j'ai l'impression de rien foutre.
Ouais. Il y a une résonance directe aussi parce que vous avez connu la toxicomanie très jeune, Nils Tavernier.
Oui, j'ai connu la toxicomanie très jeune, mais j'ai arrêté très jeune aussi. Ouais. J'ai arrêté, j'avais 20 ans. Moi, je n'ai pas fumé de pétard depuis... J'ai 40 ans, donc j'ai eu la chance d'arrêter très très jeune, mais c'est vrai que j'ai été touché par ça.
Ouais. Vous avez connu ce qu'on appelle une descente aux enfers.
Oui, j'étais toxico, j'étais suicidaire. Ouais. Quand j'étais gamin, j'étais vachement suicidaire. Je ne sais pas pourquoi j'étais là, je ne sais pas ce que je foutais. Je trouvais les grandes personnes un peu connes. Je trouvais que le monde se barrait un peu n'importe comment. Mais j'ai toujours ça en moi. J'ai toujours le truc où je trouve que les grandes personnes, s'ils n'ont pas gardé une part d'enfance, je ne les comprends pas bien quand même. Je ne les trouve pas très très marrantes. C'est pour ça que je m'entoure de gens qui sont très 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 enfantins autour de moi. Ma bande de potes, c'est des gamins. Aussi, c'est vraiment des gamins.
Voilà, Nils Tavernier, Aurore donc sur vos écrans, avec notamment Margot Châtelier, Carole Bouquet, François Berléand, Denise Gillian. Rebond sur les propos de Nils Tavernier.
Alors il y a énormément de choses dans ce qu'il dit qui me touchent et auxquelles je peux même m'identifier. Il parle de se frotter à ce qui fait peur.
Oui, j'ai envie d'aller vers mes peurs, vous aussi.
Alors c'est une question que je me pose, moi je n'arriverai pas encore, et je dis encore, à l'affirmer de cette façon-là, mais ces derniers temps, je me suis dit, mais pourquoi toujours choisir d'aller là où ça fait mal, là où c'est douloureux, d'aller vers les toxicos, vers les SDF, vers des détenus, vers des tueurs, pourquoi? Alors c'est vrai qu'il y a l'aspect engagé dont vous parliez tout à l'heure, et un sentiment d'être utile, et ça c'est bien, mais il me semble qu'il y a quelque chose derrière, de beaucoup plus profond, et effectivement le mot peur ces derniers temps m'a effleuré, donc là ça me touche beaucoup quand il en parle de façon aussi affirmative. Et là où il me touche aussi, c'est que je suis en train de faire ce virage du documentaire à la fiction. Je suis en train d'écrire, et j'ai toujours eu des envies de fiction. Quand j'ai choisi ce métier, j'avais envie de raconter des histoires. Donc je reviens en fait à l'origine de ce qui m'a motivée à faire du cinéma. Et c'est à la fois grisant, mais c'est pas sans douleur, parce que, comme il le dit très bien, en fait, quand on fait du documentaire, il y a une espèce de légitimité à être là où on est. Et il y a un sentiment d'utilité directe, où on sait à quoi va servir notre caméra et notre micro. Puis tout d'un coup, en faisant de la fiction, on doit se mettre à poil. Enfin, il y a vraiment un truc où on est exposé à ses propres, à son propre imaginaire, à ses propres désirs, à sa propre capacité de transposer les choses, de les sublimer, de les rendre universelles. Et ça, c'est une autre prise de risque qui est en fait pour moi beaucoup plus importante et beaucoup plus difficile que de faire du documentaire.
En début d'émission, Denise Gillian, vous m'avez dit je vais bien parce que vous avez des projets. Bon, il y a les deux DVD qui sortent, c'est un événement aussi dans votre vie sur lequel on va s'arrêter tout à l'heure, mais aussi parce que vous avez précisément un projet et un nouveau défi, un nouvel enjeu.
Alors je vais bien, enfin j'ai le sentiment d'aller de mieux en mieux plus je vieillis.
C'est une bonne nouvelle.
Ça c'est une bonne nouvelle, oui. Ça compense d'autres choses plus difficiles à assumer quand on vieillit. Donc il y a ça, c'est pour ça que je dis je vais bien. Mais c'est vrai aussi que c'est qu'il m'a fallu un certain courage pour revenir à la fiction, oser prendre la plume et puis me confronter, quoi, d'être toute seule à mon bureau face à la page blanche et puis y aller. Donc c'est un grand bonheur de trouver cette liberté intérieure. On parlait de liberté aussi tout à l'heure, mais là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir vraiment accès à une liberté intérieure qui était entravée jusqu'à maintenant par des craintes, par une difficulté d'accès à quelque chose de plus profond. Et j'ai trouvé depuis peu, depuis une année, je dirais, cette fluidité, enfin, ce lien avec moi-même et un langage pour transposer les choses et les offrir à l'extérieur. Donc oui, ça, c'est un grand bonheur. Je le vis comme un grand privilège.
Et sur quel thème travaillez-vous ?
La schizophrénie. Ça, ma foi, je continue à être dans des thèmes compliqués. Je travaille sur un psychodrame. L'histoire de deux sœurs jumelles, l'une schizophrène, l'autre pas. Et la femme schizophrène est amenée à tuer son enfant dans une crise de décompensation psychotique. Et le film raconte en fait plutôt sa reconstruction après. Y a-t-il une vie après ?
La reconstruction, la rédemption sont aussi des thèmes qu'on retrouve dans vos films documentaires.
Oui, et c'est souvent la reconstruction et la rédemption à travers l'art, à travers la créativité. Et ça, je crois que pour moi, c'est vraiment fondamental. J'ai l'impression que l'écriture, la peinture peut nous sauver. Et quand on arrive à créer quelque chose, on est debout. Hein, on a une dignité revendiquée, on a un accès au monde qui est bien réel. Et perdre sa créativité et cette faculté de s'en sortir par le biais des arts, je pense que c'est se perdre soi-même. Enfin, ça doit être dur.
Et le thème de ce nouveau film à venir auquel vous travaillez n'est pas tombé du ciel. Enfin, je veux dire, c'est sans doute quelque chose que vous avez puisé dans une réalité.
Alors, je l'ai puisé dans une réalité, oui. J'ai voulu, dans un premier temps, faire un documentaire, parce que c'est le mouvement qui m'est venu naturellement. Mais je trouve que quand on parle de folie, c'est très difficile.
Mais qu'est-ce qui vous a décidé, finalement, à passer à la fiction avec ce thème-là ?
L'incapacité de trouver la juste place pour la caméra. Filmer quelqu'un de psychiquement très malade, soit il est sous médicaments, il n'y a rien à filmer. Je suis un peu crue dans la façon de m'exprimer, mais c'est vraiment ça que j'ai vécu. Soit la personne décompense et va très mal, et alors c'est extrêmement cruel pour les proches, pour la personne et pour les proches. C'est très difficile éthiquement, je trouve, de trouver la juste place, la juste distance. Et puis je pense que c'était le moment juste et qu'il ne m'en fallait pas beaucoup pour passer du documentaire à la fiction. Donc ça a été un bon prétexte que de me dire que la schizophrénie n'était pas éthiquement possible à traiter de façon documentaire.
Denise Gillian, on marque une pause dans ce rendez-vous magazine Presque rien sur presque tout avec François V. A tout de suite.
De 17 à 18 heures, une autre actualité, presque rien sur presque tout, sur la première.
Planqué sous un pont avec mon accordéon, je joue pour les passants, des balades irlandaises, mon chapeau à l'envers, coiffé d'une rose en bouton, les quelques sous dedans, s'y faufilent à leur aise. Mais quand une ombre arrive, je me recroqueville un peu, je me fais tout petit, cette ombre, je m'en méfie, et en levant les yeux je vois le coyote, des bus qui sous mon pont, oui. me voilà bien marron, avec ma rose irlandaise et mes quelques deniers. Une grand-mère me regarde, elle a l'air compatissant. Lui me montre sa carte, commissaire du pont. Aïe. Et a le poil asphyxié par son imper, sa veste, son pull, sa chemise, sa carte, son flingue, ses bottes. Moi je garde la pose en faisant le chien battu et lui montrant ma rose. Je présente des excuses. Excusez-moi, je ne savais pas, monsieur le commissaire. Laissez-moi partir, vous savez moi, toutes ces lois. Je ne savais pas, excusez-moi. Et des mensonges, là je m'y sers souvent pour contrer l'arrogance de ces hommes qui me font avoir la chair de poule et des clapotis dedans. Moi pour me soigner, je m'expose librement. Je passe sur le pont avec mon accordéon et je siffle en remontant sur l'avenue du rang. J'ai eu une remontrance, un tout petit sermon aimable et paternel, le commissaire du pont. Je suis passé sur le pont avec mon accordéon, valeureux et content de l'histoire d'une chanson. Je fais la nique au gros poisson avec mon accordéon et je m'en vais rejoindre ma belle sur un simple banc. Je suis passé sur le pont avec mon accordéon, valeureux et content de l'histoire d'une chanson. Je fais la nique au gros poisson avec mon accordéon.
Presque rien sur presque tout, la suite après ce message qui vous concerne. Infotrafic, RSR.
Le trafic reste chargé sur l'autoroute du contournement de Genève à l'approche du poste de douane de Bardonnay. Et suite à un accident, un bouchon est en formation sur l'autoroute Berne-Zurich entre l'échangeur de Lutterbach et la jonction de Wangen an der Aare en direction de Zurich. François V, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Vous pouvez l'applaudir ce soir et demain à 20h30 à Trévaux. Puis vous pourrez le retrouver également sous chapiteau, je crois, au Théâtre de Villy-Lausanne du 4 au 8 avril, puisque le Théâtre de Villy a la bonne idée d'offrir des spectacles autour des paroles et des musiques qui s'inventent en Suisse romande. Sous chapiteau jusqu'à demain soir, le groupe Solam, ensuite Karine Barbet, Simon Gerbert et donc François V du 4 au 8 avril. Denise Gillian, donc sortie de ces deux DVD, enfin deux films sur les sept que vous avez réalisés, Les Bas-fonds d'une part, thème de la précarité et quelque part de la rédemption aussi, et puis donc le deuxième film qui est un film, rappelez-moi son titre.
Aux frontières de la mort.
Voilà, c'est le témoignage de quatre personnes qui sont passées, entre guillemets, du côté de l'au-delà. Le fait que ces deux films arrivent aujourd'hui en DVD, c'est un événement qui est peut-être plus considérable qu'on ne peut l'imaginer.
Alors oui, et je le découvre en fait. Ouais. C'est la première fois que je sors des films en DVD. Et en réalité, nous allons en sortir quatre. Il y a également Mon Père cet ange maudit et Alain comme les autres, Les Chiffonniers Emmaüs qui sortent cette année. Et j'ai un plaisir fou en fait à participer à l'élaboration de ces DVD. Parce que le DVD est constitué des films, mais aussi des bonus. Mmh. Or, dans les documentaires, très souvent, on se retrouve avec des kilomètres d'interviews qu'on ne sait pas où caser, qui prennent pas sens dans le montage qu'on est en train de faire, ou des plans séquences parfois qui sont des moments vraiment magiques, mais qui prennent toute leur ampleur que si on les laisse dans leur durée de 5, 10, 15 minutes. Donc j'ai plongé dans mes cartons, ressorti mes rushs, et j'ai pu vraiment créer là un objet complet entre le film, les bonus et parfois livre qui accompagne le film.
Que ressent-on à retrouver ces images, j'allais dire du passé, enfin quelques années maintenant ? Qu'avez-vous ressenti ?
Alors, à retrouver les images, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, un plaisir fou à réactualiser les questions qui tournent autour de ces films. J'ai beaucoup de plaisir à en reparler. Je me rends compte que ça n'a pas vieilli du tout, ni émotionnellement, ni intellectuellement, que je défends toujours les mêmes choses qu'il y a 10 ans, avec la même passion. Alors ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à me rendre compte que les choses prenaient sens très en profondeur dans la durée.
Mes enfants, qu'est-ce qui nourrit cette passion dont vous parlez? Qu'est-ce qui vous constitue?
Ça, c'est une question difficile. Qu'est-ce qui me constitue? Mais je crois que c'est, comme ce sont tous des films engagés socialement, d'avoir l'immense privilège de prendre la parole pour défendre des injustices ou pour demander une amélioration d'une forme de dignité humaine, c'est fantastique. Non seulement c'est important, mais en plus c'est gratifiant. Puis il y a un sentiment comme ça d'être le relais de gens qui n'ont pas la parole habituellement, et ça c'est bien.
Vous avez le sentiment de faire bouger les choses, que ce cinéma-là fait avancer la vie?
Oui. Vraiment. Quand je vois que les films sont utilisés dans les écoles sociales, par exemple, ou dans les universités qui forment les futurs avocats de demain pour réfléchir au cumul de peine en Europe ou des choses comme ça, oui, je pense que c'est des toutes petites gouttes d'eau, hein, bien évidemment, ça reste des tout petits films, mais en même temps qui touchent des milieux professionnels qui sont amenés à travailler avec ces populations au quotidien. Et oui, je pense que ça fait avancer la réflexion.
Qu'est-ce qui vous frappe dans l'actualité d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui ? Il y a un thème, par exemple, que vous n'avez pas encore abordé, c'est le thème relatif à l'environnement, à l'état de la planète. Si je vous pose la question, c'est que vous avez une famille, des enfants, donc les enfants, c'est susceptible de grandir, c'est qu'on leur lègue un monde.
Alors moi, je suis très écolo dans mon quotidien. Ouais. Donc c'est quelque chose qui me touche énormément, qui me concerne. J'espère transmettre à mes enfants un immense respect de l'homme et de la nature. En même temps, j'ai pas envie de faire des films sur l'état de la planète ou sur l'écologie. Pour moi, l'humain, il est au centre. Et je crois que je ferais ça très mal de faire des films sur des forêts ou je ne sais quoi, sur les arbres ou la reproduction des abeilles. Moi, j'ai besoin de matière humaine. Quoi.
Comment vous voyez l'avenir de vos enfants?
Plutôt bien, je suis plutôt confiante, mais j'ai le sentiment de devoir les protéger d'une certaine façon du monde environnant. J'ai l'impression de devoir lutter contre les valeurs de la société qui ne sont pas les miennes, comme la consommation, comme une forme de passivité où on ingurgite tout et n'importe quoi via la télévision, via simplement les loisirs. Et quelquefois, je m'épuise un peu à avoir le sentiment d'aller à contre-courant. Alors, par exemple, nos enfants ne sont pas à l'école publique, mais à l'école Steiner. C'est une décision importante et qui remue les parents quand même. C'est pas tout facile de se dire, bah, ok, je suis très en accord avec des valeurs qui sont plutôt marginales, mais j'ai envie de les défendre au point que je choisis une école particulière pour mes enfants. Enfin voilà, donc à la fois je suis confiante parce que je trouve que c'est des super mots, mais et je pense qu'ils sont dans un bel environnement. Mais en même temps, l'état du monde est un peu angoissant quand même.
Alors, les protéger et les préparer, c'est un métier à plein temps?
Est-ce que c'est un métier à plein temps? Heureusement, il y a des super relais. On n'est pas tout seul comme maman à les accompagner. Il y a le papa déjà. Il y a l'école. Ils sont plus tout petits, ils ont 5 ans et 7 ans.
Mais le temps qu'il vous reste, Denise Gillian, pour écrire, pour travailler, pour filmer, c'est un temps qui est très compté.
Alors c'est très compté et c'est vrai que ça soulève une question qui me touche et qui est d'actualité. C'est comment est-ce qu'on est une superwoman? Je trouve que c'est terrible ce qu'on demande aux femmes maintenant.
Vous avez un plan?
Non, j'ai pas trouvé la recette. Alors effectivement, je cours et c'est difficile d'être à la fois maman, cinéaste et en plus de s'octroyer de temps en temps une heure de libre pour courir au cinéma par exemple.
Quel est le dernier film que vous ayez vu?
Alors, le dernier film que j'ai vu qui m'a profondément touchée, c'était en DVD, parce que j'ai peu l'occasion de courir au cinéma, malheureusement, en ce moment, c'était Mar Adentro, qui est un film magnifique espagnol sur l'euthanasie. Mais en même temps, un film qui n'est pas dur du tout, et un film qui est plein de poésie, que je recommande, qui est un film du cinéaste espagnol Almodóvar. C'était très beau. Mar Adentro, ça s'appelle.
J'aimerais qu'on revienne brièvement, Denise Gillian, sur l'aventure des bas-fonds. Donc, qui est en DVD aujourd'hui, dans quelles circonstances elle s'est inscrite, cette aventure, dans votre trajet de vie personnelle?
Alors, je venais de finir un film sur les chiffonniers Emmaüs. Donc, je commençais à être sensibilisée à la rue, au statut de SDF. Quand Serge Sandor, qui est un metteur en scène de théâtre, qui a l'habitude de travailler aussi dans les milieux marginaux, donc qui fait un peu le même travail que moi finalement, mais lui avec le théâtre, moi avec le cinéma, m'a parlé de son projet de monter les bas-fonds de Maxime Gorky avec une trentaine de SDF parisiens. Donc très vite chez moi, ça a fait le désir du film est né immédiatement au moment où il m'en a parlé, parce que c'était l'occasion de rencontrer des SDF avec une certaine dignité. Ça veut dire faire un film sur eux, mais dans un moment où il y avait un enjeu qui leur permettait d'être solides, d'être debout, d'avoir quelque chose à faire d'autre que d'errer dans la rue.
Oui, comme on le voit dans le film, dans votre film, certains d'entre eux étaient SDF depuis très longtemps, entre 10 et 15 années.
Oui, absolument. Oui. Et ils arrivent au tout premier atelier théâtre, très cassés par la rue. Ils n'ont plus de dents, certains sont vraiment très très mal en point. Et c'est d'ailleurs admirable de leur part de faire le pas d'aller dans un atelier théâtre, après 15 ans de rue, et en étant aussi cabossé que ça.
Et qu'ont-ils ressenti à se voir, à voir le film? Ils l'ont vu sans doute.
Alors ils l'ont vu, et puis ils étaient très 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 fiers, parce que dans le film, on les voit se métamorphoser. J'ai tourné pendant plus d'une année. Le théâtre leur a donné envie de s'acheter des lunettes, de refaire leurs dents. On les voit vraiment se métamorphoser, à retrouver une assise. Et puis bon, le film, d'une certaine façon, immortalise quelque chose qui aurait été éphémère. Parce que le théâtre, c'est terrible, c'est complètement éphémère. Donc tout d'un coup, qu'il y a une caméra qui immortalise ce processus et qui reste comme une espèce de preuve que oui, ils ont réussi, oui, ils ont eu du succès, oui, ils sont devenus de bons comédiens. C'est extrêmement important dans leur vie. Et maintenant que le film sort en France aussi et en DVD, alors du coup, on a essayé de les retrouver tous. On ne les a pas tous retrouvés, mais enfin une bonne partie d'entre eux. Et le DVD vient compléter cette espèce de mémoire qui jusque-là était constituée d'affiches. C'est bien, quoi.
Est-ce que ce spectacle, ce travail a changé beaucoup de leur vie, de leurs conditions d'existence?
Alors ça dépend à quel moment on analyse tout ça. Moi, je les ai revus un an après la pièce, 2 ans après la pièce et 5 ans après la pièce. Alors 2 ans après la pièce, le 60% d'entre eux avaient retrouvé une vie pas normale, j'aime pas ce mot. Mais enfin, ils avaient retrouvé une vie à peu près confortable, c'est-à-dire avec des liens humains, pour certains d'entre eux du travail également, ou des activités, même bénévoles, mais des activités. Et là maintenant, on en a retrouvé que la moitié d'entre eux. Donc c'est difficile actuellement de vous répondre et de voir dans la durée ce que ça leur amène. Moi, je pense que vivre un moment heureux, quel qu'il soit, laisse de toute façon des traces positives, quel que soit le devenir concret après. Et même s'ils devaient se retrouver dans la rue aujourd'hui, donc retour case départ, eh bien, ils portent un coin de rêve et un coin de réussite et un coin de quelque chose de beau. Et ça a de la valeur.
Tout cela, c'est donc dans ce film, dans ce DVD. Denise Julien, je vous remercie. C'est un bon passage à la fiction. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Ce qui est d'ailleurs bien.
Bah oui.
Il y a beaucoup de concurrence et pas beaucoup de moyens.
Oui, ça, c'est l'éternel problème. Et le cinéma coûte beaucoup trop cher. Mais je crois qu'il faut essayer de vivre ses passions et allons-y, on verra bien. Écrire ne coûte rien, donc pour le moment j'écris.
On peut poursuivre cette conversation avec vous à la FNAC, là à l'instant à Lausanne, puisque vous êtes invité pour la sortie de vos DVD en compagnie de Jacqueline Veuve et de Dominique de Rivin. Oui. Ce sont presque deux, trois générations de cinéastes. Qu'est-ce que vous partagez en commun avec Jacqueline Veuve et avec Dominique, par exemple?
Alors, avec Jacqueline Veuve, le goût du documentaire.
Oui, ça, assurément.
Oui, le fait d'être femme, même si je ne pourrais pas développer beaucoup, parce que bon, on fait le métier de la même façon que les hommes, je pense. J'ai du mal à vous répondre. Ce sont des femmes pour lesquelles j'ai un immense respect. J'aime beaucoup leur travail. On a malheureusement peu l'occasion d'échanger. On ne se croise que dans les festivals ou dans des assemblées associatives. Enfin, donc, je les connais finalement peu. Je connais mieux leurs films qu'elles.
Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un très beau week-end.
Merci à vous aussi.
Julien. Merci.
Radio Suisse Romande, la première. Presque rien sur presque tout.
Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Ah.
Nous étions au Mexique où Denise Gillian a découvert le cinéma. Vous voici à Bruxelles, tout simplement pour le week-end.
Presque rien sur presque tout, le point com qui rapproche le monde. Bruxelles, Hugues Daillé.
À côté de l'inévitable statuette de Mannequin Peace et de l'immuable Grand Place, Bruxelles, depuis quelques saisons, tente de développer de nouveaux arguments touristiques. Parmi les plus en vogue, il y a le concept Bruxelles, ville de l'art nouveau, qui s'est concrétisé par des circuits très élaborés qui emmènent volontiers le visiteur en autocar vers l'ancien domicile privé de l'architecte Victor Horta, transformé en un fort beau musée dévolu à sa gloire. Et depuis la semaine dernière, les musées royaux des Beaux-Arts accueillent, après Amsterdam et Barcelone, une vaste exposition intitulée « L'art nouveau, la maison Bing ». Derrière ce nom qui ressemble à une onomatopée de bande dessinée, se cache Siegfried Bing, collectionneur d'origine allemande, qui eut un rôle décisif dans la commercialisation de l'art nouveau à Paris à la fin du XIXe siècle. Car une des grandes originalités de l'art nouveau, rappelons-le, fut de dépasser le cadre strict de l'architecture pour s'étendre à tous les domaines des arts décoratifs. Et après avoir été un orientaliste passionné d'estampes japonaises, Siegfried Bing s'investit corps et âme dans la défense des toiles de Knopf, des vitraux de Tiffany, des bijoux de Colonna ou encore du mobilier créé par Henri van de Velde. L'exposition bruxelloise, qui se tiendra jusqu'à la fin juillet 2006, rassemble plus de 300 pièces exceptionnelles de la collection Bing. Et dans quelques jours, le centre belge de la bande dessinée prendra le relais et jettera un nouveau coup de projecteur sur l'art nouveau puisqu'il célébrera le centenaire du bâtiment où il a élu domicile, un ancien grand magasin qui figure parmi les plus belles créations d'Horta. Or, tandis que le secteur culturel s'applique à renforcer cette étiquette de Bruxelles, ville phare de l'art nouveau, le ministère en charge du patrimoine de la ville ne semble pas toujours partager cette belle énergie. Dernier exemple en date, une splendide demeure bruxelloise créée par l'architecte Stroven, la Maison Saint-Cyr, témoignage flamboyant du style tout en volute et en arabesque de l'art nouveau, tombe en ruine en attendant, comme se rane, une hypothétique rénovation. Certes, la dite maison est classée, mais les amoureux du patrimoine savent depuis longtemps qu'une mesure de classement n'est qu'une mesure conservatoire. Cela interdit certes de démolir l'édifice, mais cela ne garantit pas sa restauration. Bref, en attendant d'hypothétiques subsides, quelques échafaudages soutiennent les superbes balcons en fer forgé de la maison Saint-Cyr qui menace ruine. Bref, exposition de prestige d'un côté, laxisme et apathie institutionnelle de l'autre, c'est aussi ça, le surréalisme à la belge. Bruxelles.com, Hugues Daillé.
Si vous souhaitez obtenir une copie de cette émission, appelez dès maintenant le 026 323 24 24.
Ehi, hey, fatemi parlare. Ehi, hey, fatemi inventare. Ehi. Hey. Ehi, ehi, fatemi sognare. Cavallo bianco che non suda mai, e questo è il nome che ho dato ad una grande meraviglia in cui mi perdo io. So che parlo come fa un indiano affascinato dal mistero fragile e solenne, ma è così che parlo io. Non fatelo annoiare, non fatelo impaurire. tempo per guardare in alto e un tempo per guardare in basso, ascoltare, non parlare e ammirare, ecco io. Mi sento intorno un paradiso che mi guarda tra le foglie di un giardino di bisbigli antichi e sto a sentire io. Ehi, sento galoppare. Ehi, il suono rimbombare.
Adriano Celentano, toute l'Italie dans tous ses états, deux semaines avant les élections, c'est la semaine prochaine, avec notamment le correspondant du Point.com à Rome, Lorenzo Zicchichi, et l'historien Pierre Milza.
Presque rien sur presque tout. Si vous souhaitez retrouver nos invités, écoutez-les cette nuit entre 3 et 4 heures du matin en nouvelle diffusion.
Infotrafic RSR.
Avec le journal 20 minutes, la Suisse romande au quotidien.
Le trafic est dense sur l'autoroute Genève-Lausanne, principalement entre Morges et Écublens, en direction du Valais. Par ailleurs, un bouchon reste signalé sur l'autoroute de contournement de Genève, à l'approche du poste de douane de Bardonnay.
Infotrafic RSR, en collaboration avec les CFF et le TCS. Radio Suisse Romande la Première. Presque rien sur presque tout, une émission de Patrick Ferlat.
Avec aujourd'hui Denise Gillian, cinéaste documentariste. Les Bas-fonds et Au-delà du réel, deux de ses films paraissent en DVD, avec aussi Nils Tavernier, son premier film de long métrage. En première vision en Suisse romande, Aurore, c'est son titre, et Hugues Deillet pour le Point.com de Bruxelles. Rendez-vous bien sûr lundi avec Alain Maillard et Hecto Verso, deux auteurs, lundi en sélection pour le prix des auditeurs de la radio Suisse romande, de Janine Massard et Claudine Roulet. Vendredi prochain, donc l'Italie est deux semaines des élections. Je vous remercie d'avoir partagé cette fin de semaine avec toute l'équipe de Presque Rien sur Presque Que tout, Rosemarie Mottet, Nathalie Schauenberg, Françoise Rochat et Jean-Claude Gailly. À très bientôt.
Presque rien sur presque tout, demandez le programme sur notre site internet rsr.ch/presque-rien.
L'heure avec ProConcept et son logiciel de gestion d'entreprise, ProConcept ERP.